Nouveau, me remercions d'être là pour cette conférence qui a en fait pour thème la pollution intérieure, qui est une thématique développée depuis une dizaine d'années. Et nous allons vous parler plus particulièrement de la pollution des champignons à l'intérieur des habitats et leurs conséquences sur la santé. Donc la conférence va se dérouler avec nous trois, la triplette environnementale. On va commencer avec le docteur Jenny Flabé, qui est membre du réseau Allergolor et qui est coordinateur du réseau. Puis Monique Guiazot, qui est conseillère médicale en environnement intérieur et qui vous expliquera en quoi consiste son métier. Et moi-même, Alexandre Rivier, qui appartient au laboratoire de mycologie du CHU. Donc on va commencer tout de suite pour avoir un peu le temps pour vos questions et discussions après. Merci.
Merci Alexandre et bonjour aux participants. Donc, en introduction, on va essayer de situer le problème. Alors, pour les épidémiologistes, l'augmentation importante des maladies allergiques et respiratoires est liée aux modifications de notre environnement, qui lui-même est lié aux modifications de notre façon de vivre. Si on s'intéresse un petit peu à ce qu'on fait dans une journée, on peut rapidement constater que certaines personnes peuvent passer jusqu'à 90% de leur temps dans des espaces fermés, entre leur logement, leurs moyens de transport, leur bureau, leur lieu de loisirs. Et donc, le fait effectivement de passer du temps dans des lieux clos a incité à se poser la question d'une éventuelle pollution intérieure qui faisait écho à la pollution extérieure qui était bien étudiée depuis de nombreuses années. Un des facteurs de la pollution intérieure, c'est l'humidité, l'augmentation de l'humidité dans les locaux. Et la principale cause est liée à nos façons d'isoler nos habitations depuis les premiers chocs pétroliers il y a une quarantaine d'années, où on s'est mis, pour maîtriser nos dépenses énergétiques, à isoler nos logements ou nos bureaux, sans penser qu'il fallait également une ventilation efficace. L'augmentation de l'humidité dans les locaux permet une prolifération microbiologique et également produit une dégradation des différents matériaux qui vont pouvoir libérer des substances toxiques pour la santé. L'humidité est donc un élément de la pollution intérieure à ce point que elle est étudiée au niveau de l'OMS et par le Conseil supérieur de l'hygiène. Il y a des publications à propos de l'humidité dans l'habitation. Il y a même une définition. Donc, on va un petit peu enfoncer une porte ouverte. Il y a de l'humidité quand on voit des fuites ou des infiltrations. Ça paraît évident. Mais également quand il y a présence de moisissures visibles par les occupants ou simplement une odeur de moisissure. En Europe, environ 20% des bâtiments auraient une humidité importante. Aux États-Unis, jusqu'à 50% des logements. On a peu d'études actuellement au niveau des logements des particuliers et il y a des études en cours dans les bâtiments qui reçoivent du public, les écoles et les hôpitaux. Va trop vite. En France, il y a une petite étude qui date de 2007 qui a été faite par l'Observatoire régional de la santé d'Île-de-France sur 150 logements, ce qui est peu, mais qui a mis en évidence qu'environ 25% des logements présentaient des problèmes d'humidité visibles ou des traces de moisissures. Également, au moins un quart des logements avaient une pièce qui présentait des revêtements dégradés suite à cette humidité. Et au niveau du questionnaire des habitants, 7% des personnes signalaient une odeur de moisissure chez elles et 17% signalaient une impression d'humidité. Les pièces les plus souvent concernées par les problèmes d'humidité sont bien sûr les pièces humides, comme les salles de bain et les toilettes, mais également la chambre. La production de vapeur d'eau dans les logements peut être très importante. Il suffit de respirer pour dégager de la vapeur d'eau. Si vous vous mettez à vous agiter un petit peu, à faire du ménage, vous allez transpirer. Et puis toutes vos occupations, la cuisine, la lessive, le ménage, la douche, le séchage du linge, produisent de la vapeur d'eau. Et donc, on a calculé qu'en fonction de la surface du logement et du nombre d'occupants, on pouvait produire jusque 25 ou 35 kg de vapeur d'eau par jour. Moi, j'ai retenu la production de 4 litres d'eau par occupant dans un logement par jour, ce qui est considérable. Parce qu'après, il va falloir l'éliminer, toute cette eau, cette vapeur d'eau. Donc, quand on isole un bâtiment, c'est bien, mais isoler et ventiler, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce qu'une maison ancienne, donc par exemple une ferme Lorraine qui n'aurait pas encore été rénovée, va renouveler la totalité de son air en 30 minutes. Une maison qualifiée de standard, c'est-à-dire une maison qui aurait été construite avant les années 70, va renouveler son air intérieur en une heure. Et une maison qui sera isolée va seulement mettre 10 heures pour renouveler la totalité de son air.
Donc on comprend bien que l'humidité est un facteur important du développement des moisissures. Et donc il faut savoir que à l'intérieur, il n'y a pas d'espèces spécifiques de moisissures. Plus de 400 espèces ont été décrites à l'intérieur. En plus, les moisissures interagissent entre elles, soit elles s'inhibent, soit elles cohabitent, soit elles vivent en symbiose. Donc les conditions de développement de ces moisissures à l'intérieur vont dépendre de conditions physiques, donc la température, et cette température variera en fonction des moisissures, puisque certaines sont plus thermotolérantes que d'autres, de la quantité d'eau disponible, mais d'autres facteurs interviennent comme les pH acides ou la présence d'oxygène. Donc principalement, les moisissures vont se développer sur des substrats qui contiennent de la cellulose et de la lignine. Toutefois, ce n'est pas un facteur limitant, puisqu'elles sont capables de se développer sur des substrats inertes et de se nourrir de ce qu'il y a dans les poussières ou dans l'eau disponible dans les murs, par exemple, pour se développer. Alors là aussi, pour décrire sans rentrer trop dans le détail, les principales moisissures qui sont reconnues pour avoir un pouvoir allergène et ou infectieux, nous avons des espèces bien connues des allergologues, que sont l'Alternaria et le Cladosporium, qui ont un pouvoir allergène bien reconnu et qu'on retrouve plutôt printemps-été. Et puis également les Aspergillus, qui donc sont allergènes et ont un pouvoir infectieux invasif également. Et les Penicillium, qui eux ont un pouvoir allergène pour un certain nombre d'espèces et aussi infectieux, mais enfin ça reste plutôt rare. Donc ces quatre espèces-là sont celles décrites en fréquence le plus fréquemment dans la littérature, donc celles qu'on retrouve le plus fréquemment dans l'air, ce qui est décrit à l'heure actuelle dans la littérature. Il y a aussi les Fusarium qui sont impliqués dans la pathologie allergique et infectieuse. Fusarium qui a besoin de plus d'eau que d'autres pour se développer. Donc quand on trouve du Fusarium, ça veut dire qu'il y a un excès d'eau dans l'habitat. D'autres espèces aussi reconnues, nous avons l'Ulocladium qui est très proche de l'Alternaria et il possède un allergène très similaire à l'Alternaria et engendrant les mêmes symptomatologies. Nous avons d'autres espèces, bien évidemment, sans trop détailler, Oreobasidium, Botrytis, Basidiomycète, Foma, qui sont reconnus pour avoir un pouvoir allergène et des pouvoirs infectieux variables en fonction des espèces. Ces espèces-là produisent quasiment toutes des mycotoxines et sont quasiment toutes aussi productrices de COV, dont je parlerai juste après. Par contre, ce qu'on retrouve aussi assez fréquemment dans l'habitat, mais qui ont un pouvoir allergène ou infectieux moindre, ce sont les acrimoniums, les stachybotrys, les chaetomium et les trichoderma, mais qui sont des moisissures qui nécessitent plus d'eau que d'autres. Quand je dis d'autres, je pense notamment à l'aspergillus, pour se développer et qui sont souvent le signe d'un excès d'eau ou d'un problème d'humidité dans un habitat. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur ? On peut retrouver différents éléments comme les mycotoxines qui sont donc des métabolites secondaires thermostables et qui subsistent et peuvent diffuser dans les denrées alimentaires et dans les substrats. On peut retrouver aussi du bêta-glucane qu'on retrouve dans la paroi des champignons, mais qui n'est pas spécifique des champignons, puisqu'on les retrouve également à travers, dans certaines bactéries et certaines plantes. Ils n'ont pas de propriétés réellement allergènes, le bêta-glucane, mais plutôt des propriétés irritantes et immunomodulatrices. Ce qu'on retrouve également à l'intérieur, ce sont donc les spores des champignons, qui est donc l'élément de dispersion, qui sont résistantes et qui sont capables de survivre plusieurs mois à l'intérieur. Et donc, comme elles sont capables de vivre plusieurs mois, elles gardent aussi leur pouvoir de germination, donc elles sont vivantes. On peut retrouver également des fragments cellulaires qui sont des petites particules qui ont également la capacité de germer et donc de se développer. Et donc ce sont les fragments cellulaires et les spores qui contiennent les allergènes. Alors comme on le disait, il y a eu depuis une dizaine d'années beaucoup d'études qui ont été réalisées sur le sujet, qui ont été synthétisées donc, dans le guideline de l'OMS en 2009 et qui se sont surtout attachées à la symptomatologie respiratoire. Donc il n'y a pas beaucoup d'études sur le côté cutané ou neurologique. Toutefois, toutes les méta-analyses montrent des odds ratios supérieurs à 1 qui tentent à montrer un lien entre l'exposition aux moisissures et ses composants et la symptomatologie respiratoire comme la toux, le wheezing, l'asthme, mais également les infections respiratoires. Toutefois, pardon, à l'heure actuelle, il n'y a pas de seuil défini, c'est-à-dire à partir de quelle dose on va déclencher soit une crise d'asthme, soit une infection. Donc il manque des preuves fortes pour établir une relation de cause à effet forte. Toutefois, les effets délétères des moisissures sur la santé est quelque chose de connu depuis longtemps. Donc on sait qu'elles ont un certain nombre d'effets sur la santé, comme des effets allergiques ou des effets infectieux dont on va vous parler là à l'instant.
Donc effectivement, les effets des moisissures intérieures et extérieures sur la santé sont de différents ordres. D'abord, des phénomènes irritatifs qui sont liés essentiellement au glucane et aux composés organiques volatiles issus des moisissures. Donc ça va toucher essentiellement les muqueuses au niveau ORL, au niveau des yeux, au niveau des bronches et également la peau. On imagine, sans qu'on ait de preuves vraiment formelles, qu'il s'agit d'une irritation mécanique. À côté de ça, on peut avoir des effets sur le système nerveux central à type de difficultés de concentration, de somnolence, et ces effets d'irritation des muqueuses et des effets au niveau du système nerveux central, ce sont des signes subjectifs qui font partie de la description de ce qu'on appelle le syndrome des bâtiments malsains, qui peuvent se retrouver aussi bien dans des bureaux qu'au domicile des personnes. À côté des phénomènes irritatifs, il y a les phénomènes infectieux, donc soit des phénomènes localisés comme la colonisation de cavités néoformées, notamment donc avec le problème des aspergillomes, et puis les infections plus diffuses, soit des bronchites ou des pleurésies, des formes plus invasives comme l'aspergillose chronique nécrosante ou bien l'aspergillose pulmonaire invasive qui touche les personnes immunodéprimées. Le problème des mycotoxicoses est connu également depuis longtemps. Donc une vingtaine de mycotoxines sont potentiellement très dangereuses pour la santé. On se souvient au cours de nos études d'avoir appris le problème lié aux aflatoxines qui contaminent notamment les arachides, donc l'aflatoxine qui est produite par l'aspergillus flavus. Et puis au niveau respiratoire, la moisissure qui fait la une de temps en temps de nos médias, c'est le Stachybotrys qui est responsable donc des décès de personnes fragiles par des lésions provoquant une hémorragie pulmonaire. Donc il y a eu des épidémies de Stachybotrys en Provence, à Marseille, et puis il y en a eu également aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, après le passage de Katrina. Et puis donc il y a des effets immunologiques au niveau de la santé, donc des allergies respiratoires de type hypersensibilité de type immédiat, avec rhinite, conjonctivite et asthme. Et nous, on connaît bien, donc on a bien étudié les méfaits d'Alternaria et de Cladosporium, qui nous donnent des allergies saisonnières qui peuvent mimer des rhumes des foins, si on peut dire. Il y a également l'hypersensibilité allergique de type 3, qui est l'alvéolite allergique extrinsèque, qui est le poumon de fermier décrit pour la première fois par Pépis en 1961. Et donc des alvéolites qui peuvent se rencontrer avec Penicillium et Aspergillus. Et puis l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, qui associe à la fois un mécanisme de type 1 et de type 3. Également, donc, les bêta-glucanes peuvent avoir des effets immunosuppresseurs que l'on suppose. Et donc, parce qu'on a mis en évidence dans certaines études une association significative entre la présence de moisissures et les infections respiratoires récidivantes. Donc nous sommes amenés souvent à faire des bilans pour des toux chroniques qui ne font pas leurs preuves par ailleurs, notamment chez des petits-enfants. Ça peut être aussi une toux qui touche tous les membres de la famille, aussi bien les adultes que les enfants, ou bien des enfants qui sont tout le temps malades. Et la recherche d'humidité ou de moisissure dans l'environnement fait partie de notre interrogatoire. Alors, quelle est la fréquence de la sensibilisation ou bien de l'allergie aux moisissures ? Donc une étude de 2002 aux États-Unis, qui était un dépistage biologique, puisque en fait on a dosé les IgE spécifiques vis-à-vis des moisissures, a mis en évidence que 10% de la population générale était sensibilisée et 5% de cette population était symptomatique. Une étude un peu plus récente, en 2007, retrouve une incidence de sensibilisation dans la population générale de 6 à 24%. Évidemment, cette sensibilisation est beaucoup plus importante dans la population atopique. La population atopique, c'est celle qui a une facilité à fabriquer des IgE spécifiques vis-à-vis des allergènes de l'environnement. Donc ça se comprend qu'elle soit plus facilement sensibilisée aux moisissures. Et chez les asthmatiques, donc jusqu'à 80% de la population était sensibilisée aux moisissures. Et puis en 2009, une étude qui retrouve sur plus de 11 000 patients aux États-Unis 5% de sensibilisation, donc ce qui revient à peu près aux chiffres antérieurs. Et ils se sont intéressés à la population des personnes présentant un asthme sévère. Chez ces personnes-là, 25% étaient sensibilisés aux moisissures, et quand l'asthme sévère menait à une hospitalisation, on retrouvait plus de 75% des personnes hospitalisées sensibilisées au moins à une moisissure. Mais le plus souvent, on est polysensibilisé vis-à-vis des moisissures. Les facteurs de risque vis-à-vis de la sensibilisation aux moisissures, alors bien sûr, le terrain atopique, être sensibilisé à au moins un allergène commun, que ce soit les acariens ou le pollen de graminées, c'est un facteur favorisant. Donc en fait, c'est le fait d'être sensibilisé à un allergène, ça signifie qu'on a déjà un terrain allergique. La présence du chat au domicile est un facteur favorisant de sensibilisation aux moisissures, des antécédents de tabagisme, et puis le fait d'avoir une maladie allergique ou des symptômes cutanés.
Alors au niveau des moisissures, les problèmes les plus fréquents rencontrés, hein, ça va être au niveau de l'habitat. Donc quand il y a une mauvaise isolation, donc souvent au niveau des cadres de fenêtres, parce qu'on a des ponts thermiques, donc le cadre en fait est posé et là c'est mal isolé. Donc du coup ça va condenser au niveau de la fenêtre, ça va ruisseler et ça va moisir. Après, on peut avoir des problèmes aussi de mauvaise isolation de l'isolation. Donc ça va être par exemple des isolants de la laine de verre qui va être mal posé. Donc dans ces cas-là, et l'isolant va être contaminé. Et en plus, comme il va y avoir des trous, pareil, on va retrouver un problème de pont thermique. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi par exemple au niveau des prises de courant. Quand vous avez des moisissures au niveau des prises, c'est que l'isolant a été mal posé. Et l'électricien, quand il est arrivé, il a carrément percé dedans. Hein. Le problème de la ventilation, donc là on a un modèle en fait de VMC, donc le principe d'une VMC c'est d'avoir une entrée d'air, donc là c'est la simple flux qui est présentée, c'est d'avoir une entrée d'air au niveau des cadres de fenêtres par des petites grilles de ventilation et des extractions au niveau des pièces humides. donc au niveau de la cuisine et de la salle de bain le plus régulièrement. Donc on demande aux gens de ne pas mettre de choses au niveau de leurs portes et vous avez une circulation d'air en continu. Donc c'est vrai que quand on a une mauvaise ventilation ou une VMC qui ne fonctionne pas, on voit tout de suite les résultats. Donc après, alors vous pouvez avoir un bon système de ventilation et le comportement des habitants va faire que ça ne marche plus. Donc soit on a des ventilations qui sont bouchées l'hiver, donc ça c'est un cas assez fréquent parce que ça ramène du froid. On a aussi des propriétaires peu scrupuleux qui mettent des grilles pour faire croire qu'il y a une ventilation alors qu'elles ne sont pas connectées à l'extérieur. Et après, on a aussi le souci, donc on retrouve beaucoup dans les logements collectifs, de ventilation où c'est juste un trou qui mène à l'extérieur ou à un conduit. Donc en sachant que ces trous, c'est jamais nettoyé, les conduits ne sont jamais nettoyés, donc ça ramène encore des problèmes parce que le conduit va être infecté. Et là, le cas là, donc c'était chez une personne où carrément le trou était bouché par une plaque. Le logement était livré avec la plaque. Quand il y a des dégâts des eaux qui ne sont pas réglés assez rapidement, donc là on voit par exemple que l'eau est montée jusqu'ici, ils ont mis du temps avant de l'évacuer, donc ça a moisi et le logement là était très contaminé, ou alors des petites réparations d'appoint. Donc la personne là avait mis un joint de silicone pour enlever les moisissures apparaissent à côté. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a des moisissures, vous pouvez nettoyer autant que vous voulez, si vous ne réglez pas la cause, elles réapparaissent. Donc là, c'était au niveau d'un évier. Donc les champignons étaient carrément apparus. Et ici, c'est au niveau d'une salle de bain. Donc c'était une personne en fait qui avait aménagé son bac à douche parce qu'il était handicapé. Il y avait eu un problème avec la pompe de remontage et par contre, ça ne se voyait pas tout de suite. Donc ça a infiltré par en dessous et c'est remonté ici. Donc l'enfant qui vivait ici a fait une pneumopathie. Donc les moisissures sont quand même pas quelque chose d'anodin et qu'il faut vite prendre en compte quand même. Après, on a tout ce qui est remontée capillaire. Donc là, en fait, c'est le problème des logements qui sont semi-enterrés. Donc en fait, la terre va appuyer sur le mur, l'humidité va remonter au niveau du mur et vous avez des moisissures qui apparaissent. Alors soit on les voit directement quand c'est très humide au niveau de l'habitat, soit ça va être caché dans des placards intégrés. Parce que comme vous n'avez pas de ventilation dans un placard, s'il est peu ouvert, s'il sert pour le stockage, en fait, les moisissures apparaissent à ce niveau-là. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas des moisissures, c'est du salpêtre. Mais ça prouve quand même qu'il y a une humidité dans le mur. Et après, c'est ce qu'on appelle les cachettes. Donc c'est vrai que maintenant, nous, on va automatiquement prélever à ce niveau-là. Donc ça va être tout ce qui va être plafond en toile ou plafond, les faux plafonds. Donc le problème de ça, alors soit c'est des personnes qui ont mis ça pour cacher les moisissures qui étaient derrière, soit ça a été fait correctement. Mais le problème, c'est qu'on a un temps d'attente entre l'apparition des moisissures et le moment où on s'en rend compte. Donc le lambris, c'est quelque chose d'assez courant aussi. Et le problème du lambris, c'est qu'une fois que ça commence à percer, bon bah voilà, vous avez tout le mur qui est moisi, ça a paru d'un coup en fait. Vous avez tout le mur qui est moisi, ça a moisi l'armoire qui était à côté, ça avait moisi toute la chambre. Et un endroit qu'on ne pense pas souvent à faire, c'est le matelas. Parce que le matelas, donc si vous avez un matelas dans une pièce moisie, enfin dans une pièce humide, le matelas va moisir. Donc si vous reprenez votre matelas, c'est quand même un endroit où vous êtes plusieurs heures par jour. Si vous reprenez le matelas que vous le remettez dans un autre logement ou dans une autre pièce, vous vous emportez avec vous vos moisissures. Alors donc pour faire des visites à domicile comme ça, parce que tout le monde ne pouvait pas, les médecins disaient qu'ils ne pouvaient pas intervenir, enfin, ils ne se rendaient pas forcément compte de l'habitat dans lequel leurs patients étaient. Donc il y a un nouveau métier qui a été créé, donc c'est conseiller médical en environnement intérieur. Donc c'est à partir d'un diplôme universitaire qui se fait à Strasbourg, qui avait été commencé par le professeur Deblé, qui est pneumologue à Strasbourg. Donc en fait, le rôle, c'est de compléter l'action du clinicien sur le terrain. Donc c'est et pour réduire les allergènes, et pour si vraiment on voit qu'il y a un souci, prévenir le médecin. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment une bonne communication entre le médecin et la CMEI. Donc, on peut faire et du chimique et du biologique. Donc c'est des fois ça peut être un problème aussi de produits d'entretien ou de choses comme ça. Et le biologique pour tout ce qui est acariens, moisissures principalement. Et après on met en place les mesures d'éviction. Donc les mesures d'éviction doivent être adaptées à la personne. Par exemple, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui n'a pas les moyens d'installer une VMC de refaire l'isolation de sa maison. Donc il va falloir des conseils simples en fonction de ce que peuvent faire les gens. Et pour après évaluer l'application de ces mesures, voir pourquoi les gens ne l'ont pas fait et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils le fassent. Quels sont les conseils qu'on peut leur donner, vers qui on peut les diriger. Donc l'intérêt du déplacement à domicile a été prouvé par plusieurs études. Morgan en 2004 montrait qu'il y avait une diminution de l'exposition aux allergènes de l'environnement intérieur. De Blavet, une augmentation de la compliance. Les gens se sentent plus concernés quand on vient chez eux, qu'on leur montre, qu'on leur montre ce qu'il faut faire. Et une diminution des symptômes asthmatiques et augmentation de la qualité de vie par Krieger. Donc c'est vrai que c'est très difficile à évaluer un déplacement à domicile, comme tout ce qui est éducation thérapeutique. C'est une action de prévention et ça reste encore très difficile à évaluer. Donc les visites de moisissure, on a commencé en 2009, fin 2009, plutôt 2010. On en fait une à deux fois par semaine parce qu'il y a le travail de laboratoire derrière pour analyser les moisissures. Ça commence par un examen des lieux. Donc on prend en compte la ventilation, le chauffage, l'isolation, les conditions hygrométriques, l'humidité, la température. On voit s'il y a des recherches, des signes d'humidité ou de moisissure. Donc en sachant que des fois, ce n'est pas toujours visible. Et s'il y a une odeur de moisissure, parce qu'on sait que l'odeur de moisissure, les études ont montré que c'était corrélé avec un fort taux de contamination. Donc à partir du moment où vous commencez à sentir qu'il y a des moisissures, c'est que vous en avez déjà pas mal. Donc on fait un prélèvement d'air. Donc on s'est attaché aux études Rebout, surtout qui travaillent à Besançon. Donc on prélève deux pièces humides, deux pièces sèches. Donc dans les pièces sèches, on va faire principalement le salon, la chambre, puisque c'est des pièces où la personne est le plus souvent. Et s'il y a une pièce, on sait qu'il va poser souci, on va la prélever en plus. L'avantage et l'inconvénient du prélèvement d'air, en fait, c'est qu'on peut avoir une quantification de la contamination, mais que c'est qu'un reflet aigu. Donc c'est pour ça qu'on demande aux gens, en fait, de ne pas ouvrir leurs fenêtres au moins 12 heures avant, parce qu'à partir du moment où vous ouvrez vos fenêtres, votre air change. Donc pour notre étude, on a utilisé un masse-sang. Donc c'est un impacteur. Donc en fait, vous avez une petite grille de 300 trous. C'est une pompe à air, en fait. Vous mettez votre milieu gélosé et vous avez les spores qui vont s'impacter sur la gélose. Donc à chaque fois qu'une colonie va se former, on va compter en UFC, donc unité formant colonie. Donc on le met à 1 mètre du sol environ pour avoir la taille d'un enfant ou d'une personne assise. Et on va aspirer 100 litres en une minute. Donc on a choisi de prendre deux milieux, le milieu malte qui n'est pas très sélectif, où toutes les moisissures vont pousser, et un milieu plus sélectif, le DG18. Donc voilà ce qu'on peut trouver en fait sur notre boîte de pétri. Donc on va faire une analyse quantitative, donc on va compter les nombres d'UFC pour savoir le taux de contamination, et après on va faire une analyse qualitative, donc chaque espèce va être isolée pour pouvoir être identifiée. Donc à partir de l'étude de M. Rebouff, on va faire une contamination, voir si elle est faible à très forte. Donc ça rejoint un petit peu les autres études qui ont été faites sur les moisissures, en sachant que 1000, c'est assez régulièrement retenu pour dire que c'est très fort. On va compléter par des prélèvements de surface. Donc le prélèvement de surface ne permet pas une analyse quantitative, mais permet de voir s'il y a des réservoirs de pollution. Donc ça va être un écouvillonnage, des morceaux. Donc quand il y a une moisissure sur une tapisserie, on prend carrément la tapisserie. Et des scotchs. Donc le scotch est une manière de faire une lecture directe. On va prélever aussi automatiquement la ventilation, les cadres de fenêtres et les murs, en plus des surfaces contaminées. La ventilation, parce qu'on s'est aperçu que c'était un vrai nid. Les cadres de fenêtres, parce que c'est souvent là qu'on a des ponts thermiques. Et les murs, régulièrement dans les coins, en fait, parce qu'on sait que c'est là que la ventilation n'accède pas si jamais elle est trop faible. Et ensuite, on va évaluer la surface contaminée, donc de 1 à 3 en fonction de la surface. Et on a mis en place aussi un prélèvement de poussière, donc là parce que ça va être ce qu'on va reconnaître de manière chronique. Donc ça va compléter les autres prélèvements, ça ne va pas forcément être un réservoir, mais ça va permettre de voir au niveau chronique ce qu'on peut trouver. Donc on s'est attaché surtout au matelas, comme je vous ai dit, c'est parce que c'est un endroit où on est régulièrement, où on est souvent. Et en plus, c'est un endroit qui n'est pas accessible. La poussière sur votre plancher, vous pouvez l'aspirer, dans le matelas, vous ne pouvez pas. Donc on va utiliser un aspirateur et un collecteur. Donc là, vous avez un système de petits filtres. Vous avez un embout que vous adaptez sur l'aspirateur. Et on va aspirer 2 minutes, 1 mètre carré.
Merci. Donc, comme on comprend aussi, il y a beaucoup de limites à tout ça et les preuves ne sont pas encore bien établies, puisque finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut rechercher, si c'est des spores, des toxines ou des COV? Donc, quel composant va être responsable de quelle pathologie et par quelle moisissure? Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce que finalement, c'est un mélange de tout cela? D'autant plus que dans l'air, le taux de contamination varie, ce qui permet, c'est pas comme elle disait juste avant, c'est un reflet aigu, donc on n'a pas forcément le reflet de ce qui se passe toute l'année dans le logement au niveau de l'air. Toutefois, c'est vrai, dans les études, toutes les méthodes ne sont pas similaires et il y a des petits problèmes de standardisation pour bien les comparer, mais une norme ISO est en cours de rédaction pour corriger cela. Donc, parmi la recherche des COV, les COV permettent de voir la contamination non visible. Toutefois, la fabrication de ces COV va dépendre du substrat et de l'espèce en cause. Donc, ça reste aussi un moyen pas très bon pour avoir une idée de ce qui se passe toute l'année dans un logement. La recherche de bêta-glucane, comme on a dit, c'est non spécifique des moisissures. Et là aussi, il y a une libération variable dans le temps. Donc, c'est un mauvais témoin. Donc, c'est pas celui-là qui sera retenu pour avoir une idée de ce qui se passe dans un logement. La recherche de mycotoxines, en général, on ne les retrouve pas dans l'air. L'excrétion est également variable puisque c'est un métabolite secondaire. Donc, si le champignon va d'abord chercher à survivre avant de fabriquer des mycotoxines, en général. Il y a des méthodes par biologie moléculaire qui se développent. L'avantage, c'est qu'il met également en évidence le non viable. Non viable, même une spore morte peut garder des effets délétères allergiques pendant un certain temps. Et ça dépendra là également des espèces. La biologie moléculaire permet d'avoir des identifications plus précises pour éventuellement cibler ce qu'on cherche, enfin la sensibilisation. Et les Américains sont en train de développer un index de contamination fongique dans la poussière afin de déterminer si le logement est peu ou fortement contaminé, sachant que la poussière est quand même un meilleur reflet d'une exposition chronique. Et donc la culture, les problèmes de la culture, ça a été le choix des milieux, bien que ça soit quand même mieux standardisé avec le malt et le DG. Les températures aussi, on peut toujours discuter les températures à laquelle on met les milieux. La compétition des espèces peut masquer certaines espèces qu'on ne retrouvera pas. Et donc la culture met en évidence que le viable. L'identification peut être aussi également plus difficile pour aller à l'espèce. Toutefois, la culture, comme on le disait, a l'avantage, et c'est d'ailleurs le seul moyen qu'on a pour avoir une quantification de ce qui se passe dans l'air à l'heure actuelle. Et l'autre avantage, c'est que le coût n'est pas très élevé, moins élevé que la biologie moléculaire, largement. Donc, pour arriver à notre étude des moisissures de l'habitat lorrain, donc le projet MUI, donc, comme vous l'avez compris, a regroupé plusieurs personnes. Nous intervenons donc sur demande médicale, au départ sur milieu pour les patients allergologiques et pneumologiques, mais nous essayons d'étendre cette offre aussi à d'autres services, en particulier aux services hématologiques. Donc l'objectif de cette étude était d'identifier et de réduire les sources d'exposition fongique avec les méthodes qui ont été décrites précédemment en faisant des prélèvements d'air, de surface et de poussière. Donc ces résultats concernent 43 logements. Les trois quarts des patients étaient des patients allergiques et principalement des asthmatiques, associés ou non à une rhinite, voire une conjonctivite. Nous sommes allés chez quelques personnes qui avaient des ABPA ou des alvéolites allergiques. À peu près 14% des patients chez qui nous sommes allés, c'était pour des problèmes infectieux avec des aspergilloses pulmonaires, voire sinusiennes. C'était principalement des patients hémato ou transplantés médullaires ou greffés rénales. Et puis chez quelques patients, nous sommes allés pour des problèmes d'eczéma ou des toux chroniques comme c'était évoqué, sans étiologie bien précise. Donc principalement, nous sommes allés dans des maisons, c'était principalement au milieu urbain. Dans à peu près un tiers des logements, il y avait une notion de travaux récents de moins d'un an, puisque les travaux dispersent des poussières et des moisissures. Les moisissures visibles étaient présentes dans 86% des logements, et nous avons un peu plus d'un tiers des logements où il y avait eu des dommages liés à l'eau. Donc en ce qui concerne la contamination aérienne, nous avions une température moyenne qui est un petit peu au-dessus des 20 degrés. Souvent on recommande d'être autour des 20 degrés. Une humidité qui était autour des 50%. On recommande souvent d'être entre 40 et 50%. En tout cas, il ne faut pas tomber en dessous de 30%. Par contre, les logements, la majorité des logements étaient faiblement, excusez-moi, faiblement ou moyennement contaminés. Et donc, nous avions un certain nombre de logements qui étaient fortement, voire très fortement contaminés. Et en général, un logement qui était fortement ou très fortement contaminé, il était partout dans le logement, la plupart du temps. En termes de répartition des moisissures dans l'air, ce qui change un petit peu par rapport aux études et ce que disais tout à l'heure, on retrouve plutôt Cladosporium, Penicillium et les Aspergillus, et d'ailleurs même plutôt l'Aspergillus versicolor dans les trois premiers. Nous avons plutôt isolé principalement de l'Aspergillus dans l'air, suivi du Penicillium, quasiment au même niveau. Les démaciers, alors démaciers c'est les Cladosporium alternaria, qui arrivent derrière, puis des Basidiomycètes, des mucorales. D'ailleurs, ce qu'on retrouve dans l'air est bien corrélé à ce qu'on a retrouvé dans les surfaces en termes de fréquence. En ce qui concerne la répartition des Aspergillus, c'est le Fumigatus qui est largement dominant dans l'air et dans les surfaces. Il faut dire qu'il est quand même très thermotolérant et s'adapte facilement à son environnement. Suivi du versicolor qui correspond quand même assez aux études. Et le Glaucus pour les trois premiers, qu'on retrouve qui sont moins bien corrélés aux surfaces. Le Glaucus étant plutôt à l'extérieur. Ça devait être souvent des gens qui nous disaient que c'était fermé chez eux, alors qu'en fait, non, ils avaient aéré avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ouais. En ce qui concerne les mucorales, qui ont un pouvoir allergène, mais également un pouvoir infectieux invasif, nous avons principalement du rhizopus dans l'air et dans les surfaces, qui a été retrouvé suivi du rhizomucor, du mucor. Donc ce sont des espèces, enfin des genres qui sont allergènes et qui ont des pouvoirs infectieux engendrant des pathologies graves chez les immunodéprimés. En ce qui concerne l'étude des matelas, donc là nous n'en avions que 23, et là aussi nous constatons que nous isolons principalement des aspergillus dans les matelas, suivi de l'alternaria qui est souvent retrouvé, puis les pénicilliums, Rhodotyrula qui est une levure, qui nécessite beaucoup d'eau, donc ça veut dire que le matelas est humide, et des mucorales. En termes de répartition d'espèces des aspergillus, c'est là encore le Fumigatus qui domine largement. Donc comme je disais, il y avait un tiers des logements qui avaient un problème d'humidité, dégâts des eaux, infiltration, qui tous ces logements étaient associés donc, à un fort taux de contamination. Donc 86% des logements présentaient des traces de moisissures plus ou moins importantes, mais ça démontre quand même qu'il y avait un problème d'humidité dans ce logement, lié à des ponts thermiques, voire des défauts de circulation d'air principalement. Mais ce n'était pas systématiquement associé à une forte contamination de l'air. Mais bon, ça constitue des réservoirs potentiels. En termes de répartition de moisissures, nous avons constaté une large prédominance des aspergillus et en particulier du Fumigatus, et puis également des pénicilliums. Donc on a une bonne concordance air-surface, comme ça a été également démontré dans la littérature. Et les principales sources que nous avons retrouvées, ce sont donc les ventilations, les cadres de fenêtres, les murs contaminés et les poussières. Donc pour finir, je vous ai mis deux exemples de visites. Le premier concernait une jeune fille qui avait une leucémie aiguë qui a réalisé pendant sa chimio d'induction une aspergillose pulmonaire qui a disséminé au niveau cardiaque. La particularité a été que nous avons isolé trois espèces aspergillaires dans son LBA de cette jeune fille, Fumigatus niger flavus. Et donc lorsqu'elle est sortie d'induction, la thérapeutique a marché, donc tout allait bien. Mais donc elle est rentrée chez elle et elle allait revenir pour une consolidation qui allait l'amener à 8 à 9 mois d'immunodépression. Donc pour éviter une récidive, nous sommes allés voir ce qui se passait chez elle, en tout cas. Et donc réduire l'exposition fongique. Lorsque nous sommes arrivés donc à J0 chez elle, nous avons constaté un logement qui était quand même très humide, au-dessus de 60%. Avec des contaminations moyennes dans cuisine, salle de bain, salon, chambre, mais qui était très forte dans la salle de jeu, là, qui était d'ailleurs juste à côté de la buanderie, qui n'était pas isolée et qui était donc très humide, puisque c'est là où il y a tout le linge. Et à la seconde visite, à 3 mois après, donc juste avant qu'elle rentre à l'hôpital pour sa consolidation, on a réussi à faire diminuer avec le couple fortement l'humidité, entre 30 et 40%, ce qui a fait quand même bien chuter la contamination aérienne du logement. Toutefois, qu'est-ce qu'on avait retrouvé ? On avait retrouvé le Fumigatus chez eux, donc un peu partout, la première fois, et le Niger qu'on avait retrouvé dans le salon et les plantes. Le Niger est souvent dans les plantes et le matelas, il aime bien ça. Par contre, le Flavus, nous ne l'avions pas retrouvé, certainement par ses problèmes de compétition également. Par contre, à M3, on a toujours du fumigatus, mais dans des quantités qui étaient quand même bien moins importantes. Donc là aussi, la question se pose pour ces patients-là, quel est le seuil, à partir de quelle dose ils peuvent développer une infection. Il faut savoir qu'elle était sous traitement prophylactique également, pendant toute la période de sa consolidation et entre les deux cures. Nous n'avons plus retrouvé le Niger après. Et par contre, on a retrouvé le Flavus, c'est là où on voit peut-être les compétitions entre les champignons, qui fait qu'on l'a retrouvé. On ne l'a pas retrouvé en surface, mais dans ce qu'on a cherché ce jour-là, mais dans la salle de jeu chez eux, il y avait un faux plafond. Il y avait beaucoup de poussière et de moisissure qui étaient sous ce faux plafond. Il est certainement là-dedans. Voilà. Donc nous avons, parmi les conseils à J0 qu'on leur avait donné, on leur avait conseillé, parce que comme on disait, on fait plutôt des conseils low cost, parce qu'on peut, faut s'adapter aux gens. Eux, ils avaient quand même un peu plus de moyens, donc ils ont installé une VMC et réisolé le toit. Mais bon, on conseille toujours de bien aérer chez soi, donc par l'installation des grilles pour créer une vraie circulation d'air, de nettoyer les conduits, donc de supprimer les plantes. Eux aussi, ils avaient la salle de bain parentale, qui n'était pas la salle de bain des enfants, qui était en travaux à l'étage du dessous, mais qui n'était pas très bien isolée. Hein. On conseille toujours de bien isoler les zones de travaux pour éviter la dissémination des poussières et des moisissures dans le logement. Éviter qu'elle aille dans la buanderie. Et puis, on a toujours des conseils d'entretien de l'aspirateur qui remet facilement des poussières en suspension et des conseils de bio-nettoyage des moisissures visibles. L'autre cas concernait une dame d'une cinquantaine d'années qui avait un asthme et une rhinite et qui avait donc une sensibilisation à trois moisissures, Aspergillus, Penicillium, Alternaria. Elle vivait dans une maison, chez eux, ils avaient une VMC double flux. Il y avait la notion d'antécédent de fuite d'eau qui était dans la salle de bain, qui avait commencé dans la salle de bain et qui s'était étendue à la chambre qui était mitoyenne à la salle de bain. Et donc on avait des moisissures qui étaient présentes également dans la salle de bain. Quand nous sommes allés chez eux, l'humidité n'était pas très élevée, autour des 50%, et une température moyenne assez classique, autour des 20 degrés. Toutefois, chez elles, l'ensemble des pièces était fortement contaminée. Donc, il n'y a pas toujours besoin d'avoir des très forts taux d'humidité pour être très, très contaminé. Qu'est-ce que nous avons retrouvé? Beaucoup de choses, du coup. Essentiellement des aspergillus, fumigatus, versicolor, glaucus. Pas mal du mucoral aussi. Du rhizopus un peu partout, un petit peu de penicillium chrysogénum qui est connu pour être allergène, celui-là, et qu'on a retrouvé aussi le penicillium, mais non, c'était pas le même celui-là. Et donc on a retrouvé également des aspergillus fumigatus auxquels elle est sensibilisée dans son matelas, et puis également du rhizopus qui peut également participer à son asthme, mais qui n'a pas été documenté biologiquement parlant. Et puis un peu de trichoderma, ça veut dire que son matelas était un peu humide. Donc, en fait, chez elle, le problème était un peu différent, puisqu'elle avait une VMC double flux qui n'a jamais été entretenue, ni les filtres changés, etc. Donc, il s'était contaminé, et donc la VMC devait recracher à l'intérieur du logement des poussières associées à des spores. Donc, bien évidemment, ici, le problème à régler était ce problème de VMC, à entretenir cette VMC. Donc, c'est vrai que c'est bien d'installer des VMC, mais si on ne les entretient pas et qu'elles ne marchent pas, ça ne sert finalement pas à grand-chose. Donc, autant ouvrir les fenêtres de chez soi. Ça coûtera moins cher. Bon, toujours les conseils de nettoyage, etc. Et puis, de changer son papier peint qui était toujours là et moisi. Donc en conclusion, comme on disait au tout début de cet exposé, le facteur environnemental est important dans la maladie allergique. La maladie infectieuse est moins étudiée, mais c'est la question qu'on pose et qu'on essaye de développer en thématique de recherche. On a besoin de collaborer avec les cliniciens, puisque c'est une relation patient-environnement, donc c'est assez complexe à analyser. La relation moisissure-maladie commence à être quand même bien établie, même si on n'a pas des preuves scientifiques avec des stats et des P faibles. Et donc on essaie de développer ce service aux membres du réseau d'abord et puis au CHU, puis éventuellement plus. Voilà. Donc on vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais donner l'autre.
Oui, la notion de pollution intérieure est bien connue souvent des gens et on nous pose beaucoup, enfin aussi bien des moisissures que on parle beaucoup des polluants, colle, etc. Oui. Et alors j'ai deux questions. Premièrement, à propos de ces fameuses plantes qui assainissent l'intérieur, le lierre, etc. Et aussi à propos de ces espèces de machines qu'on vend aux gens, qui soi-disant purifie l'air par système ultrason. Enfin, je n'ai pas très bien compris, mais je voulais juste savoir si vraiment ça a une incidence.
Ouais. Alors, pour les plantes, c'est, on le dit assez clairement, c'est plus une arnaque, parce qu'il s'appuie sur des études qui ont été faites par la NASA, donc qui n'étaient pas du tout le même principe, puisque vous aviez l'air qui c'était pour dépolluer les stations. Donc, vous aviez l'air qui rentrait dans la Terre. Et alors c'est sûr que quand vous avez la plante, les micro-organismes et la terre, ça peut dépolluer. Par contre, c'est pas du tout ce qu'on a chez nous. Chez nous, on a juste une plante en pot. L'air, il faudrait installer un système de filtre, enfin de pompe, pour pouvoir avoir l'air qui passe dans la terre. Et la surface d'échange, en fait, n'est pas assez forte entre la terre et l'air. Et en plus de ça, donc là, il commence parce que à Lille, il commence aussi à étudier le phénomène. Le problème, c'est qu'il faudrait beaucoup de plantes, beaucoup d'espèces différentes pour dépolluer, et ça ramènerait beaucoup plus de soucis en termes d'allergies, d'irritation et puis de moisissures que ce que ça ne réglerait comme problème. Donc en fait, c'est vrai que les plantes dépolluantes, c'est un petit business en ce moment. C'est pas prouvé qu'elles dépolluent, pas dans les conditions qu'on a chez nous. Et pour tout ce qui est purificateur, le problème des purificateurs, c'est que bon, vous en avez plusieurs sortes. Vous en avez, on n'a pas encore étudié tous les produits secondaires. Par exemple, quand on oxyde, on n'a pas étudié tous les produits secondaires qui étaient issus de cette oxydation. Et donc, c'est vrai qu'on ne conseille pas forcément aux gens de rajouter des choses pour dépolluer. On leur dit plutôt de retirer la source, la pollution à la source. Parce que c'est vrai que le problème de la dépollution par les plantes, c'est que les gens n'ouvraient moins leurs fenêtres et polluaient plus. Il y avait des gens qui mettaient un ficus dans leur salle fumeur, ce qui ne sert pas, quoi.
C'est pareil, il y avait une dame qui avait acheté des sortes de billes pour ses plantes qui étaient censées être anti-moisissures. On a mis un écouvillon et il y en avait plein. Donc non, ce n'est pas efficace.
Chambre, on met une pastille qui fume et puis qui nettoie les murs et puis après on passe un chiffon sec. Donc en fait, est-ce que pour nettoyer une VMC, il y a un fumant qui pourrait être aspiré pour nettoyer la VMC ?
Chez le particulier, c'est jamais proposé d'entretien, donc il n'y a pas de système d'entretien des VMC et des conduits qui peut être mis en œuvre à l'heure actuelle.
Après, pour l'entretien des VMC, ce qu'on conseille, c'est déjà nettoyer les grilles à la Javel. Donc ça serait déjà pas mal parce que c'est rarement fait, toutes les grilles de ventilation, donc que ce soit au niveau des fenêtres, au niveau des extractions. Et après, c'est avec un loup, en fait, il faut atteindre le au-dessus. Et après, c'est un professionnel qui doit faire l'entretien jusqu'au moteur.
Je voudrais ajouter que je pense que le fumant dont vous parlez, c'est à viser bactéricide ou fongicide. Dans une VMC, il y a aussi des particules qui vont servir à véhiculer tous les toxiques, les moisissures et les bactéries. Donc il faut un effet mécanique supplémentaire, il faut racler, il faut nettoyer.
Alors après, il y a juste aussi un petit problème qu'on rencontre dans les VMC, c'est qu'on a souvent des tuyaux qui sont souples, alors que normalement, une VMC, le tuyau doit être rigide, et le souple, ça doit être juste pour les coudes. Donc ce qui pose souci, si jamais vous devez conseiller aux gens d'installer une VMC, de bien faire attention à ça pour pouvoir la nettoyer facilement. Sans percer les tuyaux.
Mais pour ça, il y a la Maison de l'Habitat, qui a un site internet, et des artisans qui sont bien pour conseiller... une éventuelle installation de VMC et une isolation, d'ailleurs, ils font tout. Voilà. Ils ont des artisans agréés. Parce que aussi, on va chez des gens des fois et malheureusement, ils se font un peu arnaquer. Il y a des malfaçons, il y en a beaucoup. Et il faut faire attention à qui on fait appel. Donc quelque part, des fois, il vaut mieux faire une bonne aération de chez soi en ouvrant les fenêtres, en créant une circulation d'air, en ouvrant une fenêtre d'un côté du logement et de l'autre lorsqu'il y a un titre inversant, ou ouvrir deux fenêtres pour créer une circulation et aérer 10 minutes par jour, c'est bien pour renouveler l'air, en fonction de la vie des gens aussi, hein, ils ne sont pas toujours chez eux. Elles me disent de préciser que même quand on a une VMC simple flux, bah oui. Même quand on a une VMC, c'est quand même bien d'ouvrir ses fenêtres.
Parce que vous n'éliminerez pas une pollution aiguë. Votre VMC, elle est réglée pour le bruit de fond de la pollution de base. Mais si vous bricolez, vous peignez, il va y avoir un pic de pollution et la VMC ne va pas l'éliminer. Il faut ouvrir les fenêtres. Même si c'est une double flux hyper performante, hygro ou thermo-réglable, non, la meilleure chose, c'est d'ouvrir encore les fenêtres.
Et puis, ça coûte pas trop cher, donc c'est bien.
Si l'aspirateur est déconseillé, qu'est-ce qu'il faut prendre ?
Non, on conseillait en fait d'entretenir et de nettoyer son aspirateur. Aujourd'hui, les aspirateurs ont beaucoup de filtres qui sont rarement changés. Et si on n'entretient pas bien son aspirateur, comme le recommande le fabricant, il va remettre les poussières en suspension.
D'accord.
Donc, oui, enfin, souvent maintenant, ils ont des filtres HEPA dans les nouveaux aspirateurs. Mais comme tout filtre, il faut les changer.
S'il vous plaît, vos remarques par rapport à la VMC me font poser la question, est-ce que c'est pas finalement plus mauvais de mettre une VMC que d'ouvrir simplement les fenêtres?
Je ne crois pas que cette question soit encore définitivement résolue, mais effectivement, à ce jour, nous, on aurait tendance à dire non, on n'est pas des professionnels du bâtiment, mais je vais laisser répondre Monique, qui en sait un peu plus que moi.
En fait, la VMC, vous avez quand même un renouvellement en continu que vous n'avez pas en ouvrant vos fenêtres. Et on s'aperçoit qu'en ouvrant les fenêtres, par exemple, 10 minutes l'hiver, au bout d'un moment, vous récupérez un taux d'humidité et un taux de pollution. Et on ne peut pas ouvrir aussi régulièrement les fenêtres que le renouvellement continu de la VMC. Donc on conseille une bonne VMC et l'ouverture des fenêtres en plus.
Et un entretien de la
VMC.
Et tout ça, un jour, devrait aboutir à des nouvelles normes de construction de logements pour qu'ils soient plus sains. Si vous avez entendu parler de ces nouvelles maisons, enfin appartements, maisons passives, où il n'y a plus de chauffage et qui sont en VMC double flux. Et ce qui est assez bizarre dedans, c'est qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres, sinon ils vont perdre leur chaleur. Donc nous qui conseillons d'ouvrir les fenêtres, on attend de voir ce que ça donne, mais on n'est pas... On a un petit doute là-dessus, mais on verra bien, puisque c'est quelque chose d'assez récent. Mais bon, on peut ouvrir ses fenêtres l'été, mais l'hiver, en Lorraine, ça fait quand même un sacré coup pour le particulier d'ouvrir ses fenêtres toute la journée. Enfin, une partie, pas toute la journée, j'exagère, mais même une demi-heure par jour, ça fait beaucoup en hiver. 10 minutes, c'est bien. Ça dépend lesquels, parce que les aspergillus, qui sont quand même bien présents et bien impliqués en pathologie, eux sont très thermotolérants, ils peuvent se développer de 10 à 70 degrés. Donc, finalement, le logement dit une vingtaine de degrés, c'est bien. Et un taux d'humidité entre 40 et 50%. Parce qu'en dessous de 30, c'est trop sec et c'est aussi irritant pour les poumons. Donc il faut un peu d'humidité, mais pas trop. Bon, eh bien, on vous remercie.
J'ai encore juste une dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a parfois des reconnaissances en maladie professionnelle ou en accident de travail, enfin maladie professionnelle? Je pense à des gens qui travaillent... j'avais une patiente qui travaillait dans un chai ou dans une cave où il y avait des tonneaux, du vin, etc. et qui avait fait un asthme sévère, bon, qui était déjà allergique avant, etc. Est-ce qu'il y a des reconnaissances possibles et quelle est la démarche éventuellement?
Donc à l'hôpital, il y a un service de maladies professionnelles qui s'occupe de cela. Et régulièrement, on a des demandes de recherche pour tout ce qui est les pneumopathies d'hypersensibilité. Donc les classiques, bon, c'est fermier, oiseau, mais fromage aussi, c'est possible. Presque tout est possible. Parce qu'on travaille pour ces détections. Donc nous, bon, notre rôle, c'est de chercher les anticorps précipitants. On les envoie à Besançon, c'est eux qui centralisent ce genre de demandes et de recherches. Parce qu'ils ont bien l'habitude et ils ont bien développé ces techniques-là. Mais c'est possible, oui. Après, il suffit, si vous êtes en ville, de l'envoyer, l'adresser au laboratoire de MICO, au CHU, on le fera suivre, par exemple. Ça suffit. Ou de l'adresser en maladie professionnelle, éventuellement. Bon, donc on vous remercie.